Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe pour Le Bonheur en question. Une émission dans laquelle, chaque semaine, je réponds aux questions des auditeurs. Des questions sur le bonheur que vous m'avez posées sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux suivront un conte de sagesse et un titre de ma playlist du bonheur.
Quel est le lien entre talent et bonheur ?
Eh bien, merci, mon cher Quentin, mon fils, de cette question, en même temps qui te ressemble bien. Eh bien, les talents, d'abord, revenons sur la notion de talent. Les talents, en fait, à l'époque très ancienne, représentaient en fait une valeur très importante. Un talent, c'était un poids en argent. Et ça vient d'une parabole de l'Évangile selon Matthieu, dont la morale est en fait que lorsque nous possédons des talents qui, d'après l'Évangile, est donné par Dieu, mais sinon qu'on pourrait appeler aussi donné par la nature, donné par hasard, ou donné peut-être parce qu'on a bien réussi les vies précédentes, diraient ceux qui croient en la réincarnation, en tout cas, la morale de cette histoire, c'est que nos talents ne servent à rien si nous ne les faisons pas fructifier. Donc, est-ce qu'il y a un rapport, un lien entre les talents et le bonheur ? Ben, je veux dire d'abord oui, bien sûr, si nous faisons fructifier nos talents. C'est-à-dire, la question, c'est de dire, finalement, quels fruits je récolte de mes propres talents. Ensuite, talent, on peut appeler ça des dons, les Anglais disent gifts, d'ailleurs, cadeaux, hein, cadeaux de la vie, on va dire. Ce sont aussi des capacités ou des ressources. Et la question, ensuite, c'est de dire, ben, pour que cela m'apporte du bonheur, est-ce que j'exploite, en fait, est-ce que je cultive, pour revenir sur la métaphore toujours jardinière avec les fruits, etc., est-ce que je cultive mes talents ? Et parce que le fait de cultiver ces talents, le fait de les utiliser simplement, ne serait-ce que pour son plaisir, eh bien, va justement nous apporter un sentiment, en effet, de bonheur personnel, si c'est dans la vie, dans ses plaisirs, dans ses hobbies, dans le sport, les associations ou les activités que l'on peut avoir. Mais ça peut être aussi, bien sûr, du plaisir au travail, c'est-à-dire plus d'engagement, plus de motivation. Et du reste, on parle souvent de management des talents, c'est-à-dire bien connaître ses collaborateurs pour leur donner l'occasion, dans les missions que l'on leur confie, de pouvoir exercer leurs talents. Alors, je m'arrête juste un instant pour dire qu'en effet, nos talents, ce ne sont pas forcément des talents artistiques. Donc oui, bien sûr, nous pouvons avoir des talents liés aux arts, aux expressions, aux différentes formes d'expression, mais nous avons aussi des talents relationnels, des talents, on va dire, presque mécaniques, en fait, de compréhension, des talents cognitifs. Donc il y a toute forme de talents, et pas uniquement des talents artistiques. C'est ce que disent certaines personnes. Lorsqu'on leur demande si elles ont des talents, elles disent « ben non, je ne sais ni chanter, ni dessiner, etc. » Donc ça n'a rien à voir, ou plutôt ça peut être totalement différent. Alors, moi, quand je pense au talent, je pense à faire quelque chose à la fois qui me fait plaisir, qui me donne du plaisir, et en même temps quelque chose qui fait appel à ce que je sais déjà faire, ou ce que je peux faire de mieux et peut-être de différent des autres. Donc ça me fait penser aussi à la philosophie japonaise de l'ikigai, où finalement, lorsque on a la chance de faire des choses que l'on aime et des choses pour lesquelles nous sommes doués, eh bien, nous exerçons ce qu'on appelle donc une passion. Et une passion est toujours source d'énergie. Une passion, elle nous donne la capacité de mettre en œuvre toutes nos capacités psychologiques de façon optimale, ce que les Anglais appellent le « flow », et qu'on appelle en français donc l'état psychologique optimal. Et donc, si en plus des plaisirs et du don, on fait quelque chose qui nous semble utile, qui a du sens pour notre vie, eh bien, c'est ce qu'on peut appeler aussi une vocation ou une mission de vie. Et donc, voilà pourquoi les talents nous donnent du bonheur. Les talents nous rendent heureux, oui, à condition qu'ils soient cultivés, puisque dans ce sens, il donne du sens à notre envie. Il renforce notre sentiment, en effet, d'être différent et d'être apprécié pour nos différences. Il nous donne le sentiment d'être libre, de vivre en harmonie. Et nous font toucher du doigt, en effet, que les savoir-faire ou les savoir-être ne suffisent pas aussi. Il faut savoir donner du sens à sa vie. Donc, lorsqu'on nous cultive les talents, eh bien, on a l'esprit beaucoup plus ouvert et on se projette beaucoup plus facilement et de façon optimiste vers l'avenir. Donc c'est à la fois source de plaisir, le bonheur hédonique, et en même temps, c'est source aussi de satisfaction à long terme d'utiliser ses talents. Donc c'est aussi du bonheur eudémonique, celui en effet qui fait que nous nous améliorons sans cesse tout au long de notre vie. Mais attention, si nos talents ne sont pas cultivés, la nature est vexée et nous pouvons nous sentir malheureux parce que nous n'exerçons pas nos talents.
Est-ce que l'on peut vivre un bonheur seul ou a-t-il besoin d'être partagé ?
Merci Marie de cette question enregistrée, comme les auditeurs ont pu s'en douter, dans un jardin public, le jardin du dispensaire de Sartrouville, où nous emmenons nos enfants faire du vélo, du roller et grimper dans les arbres. Alors, est-ce que l'on peut vivre un bonheur seul ou a-t-il besoin d'être partagé ? Alors là aussi, la réponse ne sera pas tranchée. Ce que l'on peut dire au départ, c'est que l'être humain est un animal grégaire, c'est-à-dire un animal qui a besoin d'un groupe pour vivre, pour se sentir bien. Nous avons besoin d'une communauté, c'est-à-dire de mettre en commun un certain nombre d'éléments, qu'ils soient matériels ou qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient intellectuels ou qu'ils soient spirituels. Donc, au niveau, on va dire, du point de vue purement, on va dire, animal, notre besoin de bonheur, il est un besoin de partage. J'y reviendrai tout à l'heure. Le fait d'être un animal grégaire aussi, ou figuré, ça veut dire que l'on peut aussi adopter les mêmes comportements que les autres. Ça veut dire aussi, en effet, que nous avons en nous cette capacité aussi d'apprendre par l'imitation, par mimétisme, et de nous conformer aussi au mouvement, on va dire, des autres, du groupe, par besoin de remplir notre besoin d'appartenance, tout simplement. Donc, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais concernant le fait de vivre un bonheur seul ou partagé, je les compléterai tous les deux. Ma croyance est qu'en effet, on peut vivre des instants de bonheur seul. Dormir, ce qui est un bonheur pour beaucoup de personnes, mais ça se fait seul. Lire aussi, on peut aussi avoir ce plaisir de marcher seul, de courir seul. Lorsqu'on fait de la méditation, même si on est en groupe, eh bien on est seul avec soi-même. Le fait de penser, si on pratique l'écriture, par exemple, eh bien c'est un grand bonheur. Je l'ai découvert moi il y a assez peu de temps, mais en tout cas c'est un très grand bonheur. C'est bien quelque chose que l'on vit seul, même si c'est dans l'optique ensuite de le partager avec d'autres. Donc, d'une part, le bonheur peut se vivre seul, mais le bonheur a aussi besoin des autres. Pourquoi ? Comme je le disais tout à l'heure, bien parce que nous avons besoin de partager. Partager en ayant conscience aussi de ce partage, parce que le partage en conscience va nous permettre en effet de créer de l'émulation en nous, de créer de l'envie. On a besoin du regard de l'autre, on a besoin des paroles de l'autre qui vont nous permettre de développer les différentes nuances de notre plaisir. Et c'est aussi dans le rapport à l'autre aussi que nous allons pouvoir développer des projets et donner du sens à nos projets. Quelquefois, c'est lorsque l'on partage une idée qu'on se rend compte combien cette idée est riche et combien on va nous aider dans l'échange avec l'autre à trouver des nuances encore plus précises. Donc, Henry Ford disait, on utilise souvent cette citation, que seul, en effet, on peut aller plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Et je dirais aussi, ensemble, on réfléchit aussi beaucoup plus profondément, parce que nos idées vont venir s'entrechoquer et venir s'enrichir des idées des autres. Donc je parlais tout à l'heure d'un de nos besoins psychologiques importants, qui correspond à notre besoin d'identité, c'est notre besoin d'appartenance. Ce besoin d'appartenance, ce besoin de faire partie d'un groupe, d'être vu comme faisant partie de ce groupe par les autres membres du groupe, bien renforcé, ce besoin va développer l'estime de soi, le respect de soi, le sentiment d'exister, puisqu'on dit que la reconnaissance des autres, c'est en fait le fait de renaître dans le regard de l'autre. Donc on a besoin du regard de l'autre pour se sentir exister. Et donc on va devoir expérimenter dans le partage avec les autres ce sentiment de bonheur qui fait que on comprend que l'indépendance ou la dépendance sont des leurs et que le vrai bonheur consiste à prendre conscience de l'interdépendance, c'est-à-dire tout ce qui touche au partage, à la coopération, à la solidarité, et que le signe en effet que nous sommes heureux, souvent, c'est que nous avons un élan personnel aussi qui nous pousse aussi vers les autres, qui nous pousse à coopérer, qui nous pousse à sortir de notre ego pour être dans le lien avec l'autre. Donc oui, je pense que l'on peut vivre un bonheur seul, mais qu'il est encore beaucoup plus puissant lorsque ce bonheur est partagé. On a tous une Baba Yaga en nous, un joli texte de Julia Serena. Quand une jeune femme vient voir Baba Yaga et lui demande comment trouver l'élu de son cœur, Baba Yaga ne la conseille pas sur la façon d'obtenir de belles fesses fermes, des lèvres sensuelles ou d'une façon de se déplacer captivante. Elle l'envoie découvrir son agressivité, pleurer sa douleur et trouver son chemin. Et chercher des perles turquoises, parce que les perles sont belles. Quand une jeune femme vient voir Baba Yaga et qu'elle est désolée que toutes les autres autour d'elle sont belles et qu'elle est la seule moche, Baba Yaga ne lui donne pas de comprimés contre le vieillissement, le surpoids, le nez bossu ou la cellulite. Elle marmonne dans sa barbe. Mademoiselle a mangé de la ciguë. Elle lui donne à sentir du romarin forestier. Le romarin fait pleurer et pique le nez, mais la vision de la jeune femme s'éclaircit. Et elle peut enfin percevoir sa beauté. Quand une jeune femme épuisée vient voir Baba Yaga et se plaint de sa fatigue et de son manque de force et de tout ce qu'il faut gérer, Baba Yaga ne lui donne pas un cours sur la gestion du temps pour qu'elle puisse faire plus et ne remet pas en cause sa volonté. Elle dénoue les tresses de la jeune femme et la conduit au sauna chaud. Et après le sauna, l'enroule d'une couverture chaude, prépare un thé aromatique à la fraise des bois et lui demande où vont se perdre ses forces. Et la jeune femme réalise tout le bien qu'elle essaye de donner aux gens, comment elle prend sur elle ce que les autres devraient porter, combien elle s'investit pour faire en sorte que tout le monde se sente mieux. Et quel prix elle paye pour ça. Quand une jeune femme vient voir Baba Yaga et dit qu'elle est perdue, Baba Yaga n'est pas pressée de lui donner une pelote magique qui lui montrera le bon chemin. Elle réchauffe la jeune femme dans le sauna et lui fait boire de la tisane au thym. La grand-mère sait que le sauna nettoie le corps et que la conversation nettoie l'âme. Alors elle dit à la jeune femme, « Raconte ton histoire. » Et elle sait qu'au début, elle entendra des paroles virulentes, pleines de rancœur, mais qui vont se transformer en regrets. Et c'est seulement, tout au fond, que les mots doux émergeront, car ils étaient cachés. Et la jeune femme pleurera. Les larmes feront tomber les œillères et les ténèbres de l'âme. Et alors, Baba Yaga peut enfin donner la pelote magique à la jeune femme. quand une jeune femme vient voir Baba Yaga et pleure parce qu'elle a de la tristesse dans son cœur et qu'il n'y a aucun moyen de s'en débarrasser, la grand-mère n'offre pas de beaux atours et de joyeuses chansons. Elle allume un feu, prépare de l'infusion aux myrtilles et au son des brindilles crépitantes dans le feu, demande à la jeune femme de lui parler de ce qui est mort depuis longtemps, mais n'est pas enterré et pleuré. Il est temps de laisser les choses partir, même si on n'en a plus la force. Elle lui raconte le moment sombre où l'arbre perd sa dernière feuille, ne sachant rien du printemps. Elle lui parle du temps où la vie extérieure meurt, du froid et du vide à l'intérieur, de la peur que ce soit toujours comme ça, de l'espoir que le printemps va arriver et que de nouvelles feuilles vont pousser là où les anciennes sont tombées. Et elle parle de perles, turquoises, parce que les perles sont belles. C'était Jean-Marie Marcos pour Le Bonheur en question. N'hésitez pas à me poser des questions sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur. Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, soyez heureux. Shema Israel, ma son Hashem, nevor asfer.